Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Les épîtres, comme les hirondelles, vont souvent par paires. En dehors des couples d'épîtres adressés aux mêmes destinataires et que nous numérotons première aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, on peut citer d'autres lettres qui, manifestement, par leurs affinités, se retrouvent ensemble. Les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, par exemple, appartiennent à la même période, reflètent les mêmes réflexions de l'apôtre Paul. Et l'épître aux Galates et l'épître aux Romains sont sans doute associés de façon assez semblable. L'épître aux Romains, après quelques mois ou même sans doute quelques années, reprend la substance de l'épître aux Galates. L'épître aux Galates, c'était la riposte indignée de l'apôtre aux menées des judaïsants, comme on les appelle, c'est-à-dire de prédicateurs légalistes qui avaient tenté de placer à nouveau sous un joug de servitude les nouveaux chrétiens de Galatie. Lorsqu'il écrit aux Romains, quelque temps plus tard, l'apôtre n'a pas à faire face à la même situation d'urgence. Il prépare sa visite aux chrétiens d'une ville qu'il n'a pas encore pu visiter, mais il leur expose systématiquement son évangile. Il sait qu'on fait de lui et de sa doctrine des caricatures, que ses adversaires, sans doute, l'ont précédé de leur propagande, et il rédige donc, de manière plus ample, un compte-rendu de l'ensemble de son enseignement pour préparer le ministère qu'il aura dans la capitale. Si l'épître aux Galates, dans le feu de l'action et de la réaction, est comme le manifeste de la liberté chrétienne contre ceux qui tentaient de placer à nouveau sous les chaînes les jeunes chrétiens, on pourrait dire que l'épître aux Romains en est le traité de la liberté chrétienne. Le mot de liberté y revient sans doute moins souvent que dans l'épître aux Galates, mais le thème y est également central, et c'est pourquoi trois chapitres de l'épître aux Romains ont fait l'objet du choix pour les études bibliques de ce congrès 86. Si nous voulons penser bibliquement au thème de la liberté, c'était sans doute soit l'Épître aux Galates, soit l'Épître aux Romains qu'il fallait recourir. C'est sur elle qu'il fallait concentrer notre méditation. Et je crois que nous faisons bien de prendre l'exposé mûri de l'apôtre, celui qui, n'étant pas aussi étroitement lié que l'exposé de l'Épître aux Galates, à des circonstances particulières, peut traverser les siècles et nous convenir le plus directement. Nous étudierons ensemble les chapitres 6, 7 et 8 de l'Épître aux Romains. La liberté que Paul considère et dont il nous parle, c'est d'abord la liberté à l'égard de la loi. Il a tout spécialement à cœur de montrer que la barrière que la loi édifiait entre les juifs et les goyims, les non-juifs, est abattue désormais du fait que les chrétiens ne se trouvent plus sous le régime de la loi. Mais la liberté dont il parle n'est cependant pas seulement liberté à l'égard de la loi. La loi n'est tyrannique, il nous le dit très clairement dans les chapitres que nous étudierons, que dans le contexte du péché et de la mort. Cette mort qui est le salaire du péché, qui est ce qu'en régime de loi, le péché mérite et entraîne. La liberté étant à l'égard de la loi, mais aussi du péché et de la mort, le plan de l'Épître aux Romains se déroule de la manière suivante. Dans sa première partie, après les quelques versets d'introduction au premier chapitre, l'apôtre montre l'universalité de l'esclavage dans lequel se trouvent tous les hommes, juifs ou non-juifs, juifs ou païens. À partir du verset 18 du premier chapitre jusqu'au verset 20 du chapitre 3, l'apôtre démontre que tous sont privés de liberté, tous sont aliénés par le péché. Dans la partie qui suit alors, qui est le premier exposé de l'Évangile, l'apôtre démontre quelle est la liberté reçue en Jésus-Christ par la foi à l'égard de la condamnation de la loi, à l'égard du jugement qui se fonde sur l'application de la loi. La liberté du salut nous est gratuitement accordée. Nous sommes, nous qui ne le méritons pas, acquittés par la foi en Jésus-Christ, assurés pleinement, même en pensant au jugement dernier, assurés pleinement de la vie éternelle. C'est ce qu'exposent les chapitres 3, 4 et 5 de notre épître. Mais il reste une autre dimension, et bigrement importante, de la servitude en laquelle nous nous trouvons naturellement, nous les pécheurs. Il n'y a pas seulement l'oppression angoissante de la condamnation qui pèse sur nous du fait de nos fautes, ce qui correspond à la dimension relationnelle, ce qui correspond au devant Dieu, ce qui correspond aux lois qui régissent l'espace spirituel de notre rapport à Dieu. Il n'y a pas seulement cette servitude du jugement qui est sur nous du fait de nos fautes, mais il y a la servitude très, très concrète, expérimentale, quotidienne, du péché lui-même, considéré dans son déroulement. Il n'y a pas seulement pour nous l'indignation divine qui pèse, il y a cette impuissance concrète où nous nous trouvons de faire ce que nous devrions faire, ce qu'en un sens même nous voudrions faire. Il y a cette tyrannie du vécu intime qui est la tyrannie du péché ou de la chair, comme dit l'apôtre, c'est-à-dire de notre nature comme imprégnée par le péché, par l'hostilité plus ou moins déguisée à Dieu, par toutes les tendances qui tentent à nous désintégrer. Et c'est de ce second aspect de la servitude naturelle dont nous avons à être libérés que l'apôtre parle à partir du chapitre 6. Dans les premiers chapitres, donc, il s'agit de l'aspect plutôt légal et juridique. Et à partir du chapitre 6, il s'agit davantage de notre vécu subjectif. L'apôtre montre que la foi en Jésus-Christ libère aussi, et elle seule peut le faire, de cette servitude, de la servitude du péché lui-même. Et il a à cœur de démontrer que la loi n'y parvenait pas. La loi à laquelle étaient attachés certains de ses adversaires, et finalement à laquelle l'homme naturel pense recourir lorsqu'il essaie de faire mieux, que la loi ne peut pas briser la chaîne de l'esclavage ordinaire du péché dans notre vie. La foi, elle, le peut. Voilà le thème général, et vous voyez donc comment il se raccroche au sujet de la liberté, le thème général des chapitres 6, 7 et 8. Au chapitre 6, dans le passage que nous considérons spécialement ce matin, il commence, c'est souvent sa technique d'ailleurs, par faire rebondir son exposé à l'aide de la reprise de termes qu'il vient d'employer en conclusion de la section précédente. Il commence dans les deux premiers versets en dénonçant une perversion de son évangile, du message qu'il apporte, et il le fait en évoquant la conclusion tout à fait malveillante ou en tout cas de pur contresens que l'on tirait de certains accents de son évangile. Au verset 20 du chapitre 5, il a affirmé que là où le péché a abondé, a proliféré, la grâce de Dieu a surabondé. Il a expliqué que le salut n'étant pas par les efforts de l'homme, par les œuvres que nous réussissons à accumuler, par la justice que nous réussirions peu à peu à réaliser dans notre vie, la grâce de Dieu a comme un torrent qui déborde, il surabondé là où le péché avait abondé. Du coup, certains tiraient la conclusion que autant rester dans le péché alors, puisque la grâce de Dieu surabonde quand le péché se multiplie, puisqu'il en a été ainsi dans le plan même de Dieu, c'est plus la peine de faire d'efforts, c'est plus la peine d'essayer d'éliminer le péché dans sa vie. Demeurons dans le péché pour que la grâce abonde. La grâce de Dieu est toujours la plus forte, alors ne nous en faisons pas, agissons simplement à notre guise, cédons à toutes nos convoitises, pêchons donc allègrement, puisque la grâce va surabonder de toute façon. Déjà au chapitre 3 et au verset 8, l'apôtre avait évoqué cette manière de comprendre, c'est-à-dire de se méprendre, cette manière de comprendre le message de la libération en Jésus-Christ, la libération du joug de la loi. Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Qu'ainsi n'advienne ! Il est pratiquement impossible de traduire avec toute la force que l'expression avait chez Paul, cette manière qu'il a, assez fréquemment, de rejeter une pensée qui lui semble absolument horrible, abominable, qui est à exclure totalement. Jamais de la vie, mais vous n'y comprenez rien. Ce qu'ainsi n'advienne dans la traduction que j'ai lue correspond au mouvement de rejet le plus résolu de la part de l'apôtre. C'est un contresens complet. Il est probable que la pensée en cause était aussi bien la pensée de certains libertins de l'époque, certains chrétiens qui croyaient que leur liberté chrétienne alors leur permettait de faire n'importe quoi. Dans la première épître aux Corinthiens, par exemple, l'apôtre évoque des chrétiens qui pensaient qu'alors ils pouvaient aller fréquenter les prostituées sans s'en faire, hein, puisque maintenant ils n'étaient plus sous la loi. Que l'apôtre donc évoque aussi bien cette conclusion comme étant la conclusion de certains libertins, chrétiens prétendument émancipés, que celle des légalistes, qui disait « Voilà ce qu'on va obtenir comme résultat si on accepte vraiment l'évangile de Paul. » Voilà la conclusion qu'on doit tirer logiquement des propos de l'apôtre Paul sur la libération à l'égard de la loi, sur le salut par la foi seule en Jésus-Christ. Il est significatif d'ailleurs que les libertins et les légalistes se rencontrent sur ce point. Ils représentent à bien des égards le positif et le négatif de la même image. Ils sont opposés aux deux extrêmes, mais en réalité ils comprennent la loi de façon très semblable, et je crois qu'on peut découvrir dans la motivation spirituelle profonde des uns et des autres finalement le même ressort, le même refus de reconnaître vraiment le Seigneur comme Seigneur. Le légaliste ne reconnaît pas le Seigneur comme Seigneur. Il remplace le Seigneur par une loi, un code, avec lequel il s'arrange. C'est lui qui demeure le maître de sa vie et qui se sert des commandements de Dieu pour s'assurer sa petite sécurité, pour produire en lui-même un petit sentiment de contentement qui est un plaisir. Je suis OK. C'est finalement pour obtenir un plaisir intérieur aussi que le légaliste s'impose toutes les privations qu'il s'impose. Il ne veut pas se soumettre simplement à la volonté de celui qui a tous les droits sur sa vie. Non, il refuse ça. Il cherche à se servir des commandements de Dieu. Il y a ce même ressort, me semble-t-il. En tout cas, il est significatif qu'il se rencontre dans le contresens énorme que l'apôtre doit dénoncer dès ce début du chapitre 6. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup pour mettre en valeur l'actualité de la question. Ce qui est le plus évident dans l'évolution de notre culture des 15 dernières années, 15-20 dernières années, c'est le rejet croissant, de plus en plus avoué et parfois cynique de toute norme, de toute règle, de tout commandement. L'attitude, disons, de libertine est celle qui semble avoir gagné la majorité, alors qu'elle a été de tout temps, mais souvent officiellement minoritaire. La chute des référentiels, l'intolérance à l'égard de l'idée même que quelqu'un puisse dicter à l'individu sa conduite. Ça me regarde, c'est tout. Mais en même temps, il est très intéressant d'observer qu'un climat légaliste subtil opprime les consciences, que l'interdiction d'interdire est à elle seule déjà un motif très légaliste, et que les gens se sentent sous un poids, sous des exigences diffuses, mais qui leur sont une tyrannie. Alors l'apôtre Paul réagit, mais c'est impossible pour un chrétien de penser comme ça. Une telle prostitution de la liberté chrétienne est tout à fait exclue pour le chrétien qui a compris quelque chose, pour le chrétien qui se veut conséquent. Comment lui qui est mort au péché pourrait-il conclure « Ah bien alors je vais continuer à pécher allègrement ». La grâce abondante, c'est le métier de Dieu de pardonner, comme disait Voltaire. Comment un chrétien qui a vraiment fait l'expérience du christianisme, donc qui est mort au péché, comment pourrait-il raisonner de cette façon? C'est absolument exclu, c'est impossible. Voilà le thème principal du passage que nous considérons, énoncé dès les deux premiers versets du chapitre. Alors dans les versets qui suivent, en gros, dans les versets 3 à 10, il me semble que l'apôtre fonde et développe son affirmation. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il a dit ça de manière forte et brève, mais il faut encore qu'il l'explique. Et c'est ce qu'il fait à partir du verset 3. Il explique, mais je pense que certaines explications de ces explications ne seront pas inutiles, parce qu'avouons-le, c'est un petit peu compliqué. L'apôtre Paul dicte à son secrétaire, avec la passion qui souvent l'animait lorsqu'il se mettait à exposer les vérités centrales de son enseignement. Son style est nerveux, quelque peu répétitif, mais il progresse en même temps. La pensée est extrêmement riche et je pense qu'il faut que je dise quelques mots pour que vous vous y retrouviez plus aisément. Il combine trois références, me semble-t-il, pour prouver que le chrétien est en effet mort au péché et ne peut donc pas concevoir la liberté chrétienne comme la liberté de faire tout et n'importe quoi, et en particulier de demeurer dans le péché. Trois références. Une référence au baptême, car vous avez observé que l'apôtre immédiatement introduit le thème de nous tous qui avons été baptisés. Référence au baptême chrétien. Mais référence ensuite de ce baptême chrétien à la mort du Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est pour sa mort que nous avons été baptisés. Et en troisième lieu, référence de cette mort du Christ au péché, à la question du péché. C'est par ces enchaînements successifs que l'apôtre établit sa thèse principale énoncée au verset 2. Nous tous qui sommes morts au péché, comment alors vivons-nous encore dans le péché? On pourrait faire une espèce de syllogisme pour schématiser l'argumentation de l'apôtre. En gros, il leur dit, première prémisse, si vous êtes croyant, vous avez été baptisé. En second lieu, il leur dit, votre baptême signifie votre union à la mort de Jésus-Christ. Et la conclusion, le troisième terme, non, c'est même plus qu'un syllogisme en fait, oui. Vous avez une troisième prémisse encore. Or, la mort de Jésus-Christ est une mort en rapport avec le péché. Donc vous êtes vous-même mort au péché du fait de votre union, assimilation à Jésus-Christ. Ce raisonnement de l'apôtre, je crois que nous en reconstituons donc la ligne principale, mais il faut avouer qu'il présente certaines difficultés que je vais essayer de débrouiller avec vous. Première question qui se pose, me semble-t-il, pour nous chrétiens évangéliques est la suivante: le baptême opère-t-il l'union à Jésus-Christ en sa mort? Il s'agit de la question très débattue tout au long des siècles de l'histoire de l'Église, de la fonction du baptême, de son rôle au sein même des groupes bibliques universitaires. Il y a diversité possible d'appréciation sur une telle question, et j'espère ne choquer personne par les thèses que je vais vous proposer à ce sujet. Je crois cependant qu'il y a aussi convergence parmi tous ceux qui militent dans le monde entier, dans les rangs des groupes bibliques universitaires, et que nous pouvons quand même nous mettre d'accord sur la signification du recours de l'apôtre Paul ici au baptême. L'apôtre Paul voudrait-il dire que le baptême, comme rite, comme sacrement, effectue l'œuvre spirituelle qui est ici en cause, d'unir au Christ en sa mort, de faire passer de la mort à la vie, de mettre fin à l'existence ancienne dans le péché? Si le texte était pris de manière tout à fait isolée, peut-être pourrait-on interpréter de cette manière, mais sitôt qu'on le considère dans son contexte et dans le contexte général des épîtres de Paul, on se rend compte que cela n'est vraiment pas possible. Première considération que l'on peut amener: si l'apôtre Paul attribuait au baptême, distinctement de la foi, de la simple foi en Jésus-Christ, une telle efficacité, En fait, il ruinerait toute son argumentation précédente. Tout son effort face à ses adversaires est de mettre en valeur que le salut qui nous est donné en Jésus-Christ et dans tous ses aspects est par la foi seule, sans les œuvres de l'homme, pour que rien ne reste, pas la moindre petite parcelle, particule, dont l'homme pourrait quand même être un petit peu fier au fond de lui-même, à quoi il pourrait attribuer une part de son salut. Si l'apôtre Paul répondait à l'objection de ses adversaires, libertins ou légalistes, au début du chapitre 6, « Ah oui, mais il y a aussi le baptême qui, lui, alors, opère la mort au péché. » Il concéderait en fait à ses adversaires que la foi seule ne suffit pas, qu'il faut une œuvre, parce que le baptême est bien une œuvre humaine, c'est un commandement qui est adressé aux hommes de l'accomplir, qu'il y faut une œuvre en plus de la foi pour éviter les conséquences que les libertins ou les légalistes voudraient tirer de son enseignement. En fait, il leur concéderait qu'ils ont raison, que la foi seule, en effet, nous laisserait dans le péché. En tout cas, que ce serait là une possibilité, et qu'autre chose doit être adjoint en complément. Alors ce serait la ruine de tout ce qui lui tenait à cœur, manifestement, dans ces chapitres. Et ce serait en contradiction, ou au moins en tension visible, avec l'attitude générale de l'apôtre Paul envers le baptême dans d'autres épîtres. Au début de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, il souligne « Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, mais pour prêcher l'Évangile, qui est la puissance de salut. » Et je suis très content de ne pas avoir baptisé aucun parmi vous. Si oui, juste avoir... Ouais. Comment l'apôtre Paul, si vraiment il avait attribué le passage décisif de la mort à la vie, cette fin de l'existence antérieure, au baptême comme tel, distinctement de la foi même, aurait-il pu parler de cette façon? Cela paraît tout à fait exclu, et la réponse, me semble, à la question du sens véritable de l'apôtre Paul, me semble avoir été très bien donnée par un théologien réformé, que j'estime beaucoup, John Gresham Machen, qui a été un des grands défenseurs de la foi évangélique aux États-Unis dans la première partie du siècle, et spécialement entre les deux guerres mondiales. Il écrit dans son livre sur l'origine de la religion de l'apôtre Paul que toute la teneur des épîtres pauliniennes exclut absolument l'interprétation, il dit cette interprétation, c'est l'interprétation qui attribuerait au baptême comme tel l'effet de nous faire passer de la mort à la vie. Et il continue, je le cite, et une autre interprétation rend pleinement justice aux mots de notre texte. Cette interprétation est l'interprétation évidente qui fait de l'acte du baptême un signe extérieur d'une expérience intérieure. Et il ajoute, à la même page, que le baptême rendait visible la foi. Il emploie le mot « visualiser ». Et à la page suivante, il dit encore, Paul ne dit pas que la mort et la résurrection ont été produites par l'acte extérieur, sinon en tant que cet acte était l'expression de la foi. L'apôtre Paul recourt ici au baptême parce qu'il s'agit du signe qui représente l'engagement même de la foi. Et ce théologien réformé l'a bien dit, je cite tout spécialement un théologien réformé, parce que vous savez qu'entre les baptistes, je suis baptiste, et les réformés, il y a des différences sur la théologie du baptême. Je cite ce théologien réformé pour vous montrer qu'ici, dans l'interprétation de ce chapitre 6, il y a un accord entier, que ce n'est pas donc spécialement un point de vue particulier que je suis en train de promouvoir. Ce théologien a bien vu, ce n'est pas le baptême comme tel qui opère le changement, il est ici en cause parce qu'il est l'expression de la foi qui la rend visible. Et il me semble qu'une analogie pourrait s'imaginer aisément du type d'argumentation que l'apôtre met en œuvre. On imagine très bien un prédicateur s'adressant à un ensemble de couples mariés, les exhortant à la fidélité conjugale, par exemple, après quelques années de mariage, en leur disant « Mais ne savez-vous pas, vous tous qui êtes mariés, que vous portez un anneau au doigt ? Ne savez-vous pas que vous avez ici une alliance ? Que cette alliance est ce qui vous lie ? Ne savez-vous pas que vous êtes liés l'un à l'autre exclusivement ?» Ce n'est pas bien sûr le signe extérieur, l'alliance elle-même, qui produit le lien qui unit les deux conjoints, mais elle est le signe, elle est le signe de leur engagement. Et c'est à ce titre que référence peut être faite à l'anneau de l'alliance, parce qu'il y a symbolisation de ce dont il est question. Donc le premier point, je pense, peut-être aisément conclu entre nous, mais j'ajoute un argument supplémentaire qui se tire des termes mêmes que l'apôtre emploie. Si l'on scrute le texte attentivement, si l'on considère le détail du passage, on se rend compte que l'apôtre ne dit pas que le baptême nous unisse à Jésus-Christ, que le baptême nous unissent à la mort de Jésus-Christ. C'est malheureusement, je dirais, ce qui semble ressortir de beaucoup de traductions du texte. Mais ce n'est pas dit précisément, si l'on veut être tout à fait rigoureux. J'ai utilisé la version déjà ancienne de Darby, parce que c'est la seule qui, sur ce point, pour une fois, je ne suis pas un fanatique de la version Darby en général, mais c'est, sur ce point, il me semble que c'est la version Darby qui respecte le mieux la nuance de la préposition utilisée par l'original. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, traduit Darby, nous avons été baptisés pour sa mort. La plupart des versions utilisent en plutôt que pour dans ce passage. Et je suis venu à la conclusion que c'est regrettable. La préposition en cause est une préposition qui a toute une gamme de significations, qui peut avoir un sens local impliquant le mouvement, comme « into » en anglais, mais ce n'est pas la seule signification. Le sens de « pour » y est très très fréquent, et très fréquent également dans son usage, et le sens assez vague, assez général, de la référence, par référence à, en fonction de, en vue de, ce sont des sens tout à fait courants pour cette préposition. Or, employée avec le verbe baptiser, cette préposition, qui est donc employée très fréquemment avec ce verbe, n'a qu'exceptionnellement, une seule fois, je crois, le sens local, baptisé dans le Jourdain, une seule fois, et partout ailleurs. Ce n'est pas le sens local, into, qui convient, mais plutôt un sens de référence, plus ou moins précis, un sens qui peut se rendre assez bien en français à l'aide de la préposition pour, qui est assez élastique aussi dans notre usage. Le grand théologien, dont vous avez sans doute entendu le nom, le grand théologien du XXe siècle, qui n'est pas un théologien évangélique, à notre sens, mais qui, quand même, une certaine autorité, Karl Barth, dans le dernier fascicule de sa dogmatique, a très très vigoureusement plaidé contre le sens local, ici, into, dans ce passage, et dans les autres passages où l'apôtre emploie l'expression, et pour la traduction en référence. Ah, nous tous qui avons été baptisés en référence à Jésus-Christ, c'est en référence à sa mort que nous avons été baptisés. Et une preuve, me semble-t-il, assez solide du fait que la préposition ici n'a pas le sens local, que ce n'est pas du tout pour l'apôtre l'idée que le baptême nous plongerait en Christ, nous ferait entrer dans un ensemble qui serait Christ. Que ce n'est pas du tout ça qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre emploie l'expression parallèle est forgée pour être parallèle à celle-ci dans le chapitre 10 de la première aux Corinthiens, en disant que les Israélites, dans les types de l'Ancien Testament, les figures de l'Ancien Testament, ont tous été baptisés, même préposition qu'ici. Moi je dirais donc pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Les Israélites, lorsqu'ils sont passés à travers la mer des roseaux, au moment de l'Exode, ont vécu quelque chose qui était comme un type du baptême chrétien. Et l'apôtre, pour cette raison, dit qu'ils ont été baptisés pour Moïse. Il est évident qu'ils n'ont pas été plongés en Moïse, que ce n'est pas le sens local par rapport à Moïse. Ils ont été baptisés, entre guillemets, par cette expérience historique pour faire partie, disons, par rapport à Moïse, par rapport au leadership de Moïse, les conduisant en cette affaire. Si l'apôtre, en 1 Corinthiens 10, donc, a pu employer cette préposition dans le cas de Moïse, c'est, me semble-t-il, une bonne preuve que lorsqu'il l'emploie pour Jésus-Christ, il ne s'agit pas du sens local. Alors, une fois qu'on a vu ça, oui, qu'est-ce qui reste pour le baptême considéré comme distinct de la foi ? Simplement l'ensevelissement. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, qui fait référence à sa mort. Le baptême, si on le considère distinctement de la foi, et non plus simplement comme l'expression de la foi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il est à la mort ce que l'ensevelissement est à la mort. Par la foi en Jésus-Christ, celui qui remet sa vie au Seigneur, s'unit au Seigneur, et il passe ainsi de la mort à la vie, et il exprime ensuite sa foi dans le baptême, qui est l'acte public et solennel de ratification de l'événement qui s'est produit, qui lui assure sa publicité, au sens propre du terme, et ça devient l'événement public, c'est enregistré, l'état civil en tient compte. C'est ça le baptême, par rapport à l'événement spirituel. C'est l'enterrement du vieil homme, comme dit l'apôtre, c'est-à-dire du personnage ancien qui a été le nôtre pendant tout le temps que nous avons vécu avant de connaître Jésus-Christ. Donc il n'opère pas lui-même le changement, mais il en représente l'enregistrement public. Donc ce n'est pas le baptême lui-même. Voilà la première difficulté qu'il nous fallait, je crois, résoudre. Le deuxième point que l'apôtre met en lumière, c'est que la mort de Jésus-Christ est une mort au péché, mort une fois pour toutes. Que veut dire exactement l'apôtre en disant que Jésus-Christ est mort au péché ? À coup sûr, il ne veut pas dire que Jésus-Christ lui-même avait quelques traces de péché encore dans sa vie auxquelles il a dû renoncer. C'est tout à fait exclu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre souligne qu'il n'a pas connu le péché, connu expérimentalement, connu le péché dans sa vie. Lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire couvert de notre péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais il n'a pas connu le péché, donc s'il est mort au péché, ça veut dire précisément qu'il a été fait péché pour nous, qu'il a été couvert de nos fautes et qu'ainsi le règne du péché a été brisé. Voilà la signification fondamentale de cette expression ici. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort ? Il est mort pour régler la question du péché et pour que le règne du péché soit détruit. Et ce n'est pas un point que tous les chrétiens dont la chrétienté ont reconnu avec la clarté souhaitable, en tout cas. À cause d'un certain romantisme, une chose qui remonte même bien en deçà du romantisme, certaines traditions mystiques, la mort de Jésus-Christ, dont tout le monde sait qu'elle est au centre du christianisme, l'image de la croix, a souvent été associée simplement à la pensée de l'amour. De l'amour qui se donne, de l'amour qui veut mourir d'amour. sous la plume de ce grand penseur, pour lui aussi j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup reçu de lui, ce grand penseur qui était le philosophe catholique maritain, j'ai lu par exemple dans une page qui évoque le ravissement mystique, c'est par une extase d'amour que le Christ est mort sur la croix. Je regrette, je ne crois pas du tout que ce soit cela que la Bible nous enseigne. C'est le jugement porté sur les péchés qu'il portait, parce qu'il a été fait péché, et ainsi malédiction pour nous, que le Christ est mort sur la croix. Il a remis son esprit au Père, oui bien sûr, c'était dans l'amour qu'il est mort. Mais ce n'est pas une extase d'amour. S'il a fallu qu'il meure, c'était à cause du péché. C'est par rapport au péché qu'il est mort, nous dit ici l'apôtre. Je me rappelle une illustration que j'ai lue une fois, qui vous fera bien comprendre le contraste entre ces deux morts par amour. Il y a celui qui à la manière de Tristan, meurt d'amour parce que l'amour ne peut pas se satisfaire des conditions temporelles d'existence. Qui meurt d'amour, pas du tout biblique. Puis il y a celui qui meurt par amour, mais parce que son amour le conduit à sacrifier sa vie au profit de ceux qu'il doit sauver. Celui qui meurt d'amour parce qu'il ne peut pas supporter la pensée du train-train quotidien, qu'il est tellement remué, en fait, ce n'est pas l'amour biblique. Mais le pompier qui, pour sauver quelqu'un dans la maison, se risque dans les flammes et il laisse sa peau, celui-là, il meurt d'amour. Celui-là, il meurt vraiment d'amour. Mais pour sauver, parce qu'il fallait qu'il se risque pour sauver. Si le Seigneur Jésus-Christ est mort par amour, si sa mort représente le comble de l'amour, il aima les siens jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est parce qu'il fallait qu'il meure pour nous délivrer du péché. C'est de cette façon qu'il est mort au péché et que notre mort avec lui, nous sommes unis à lui de telle sorte qu'il y a comme une reproduction de sa mort dans notre expérience et nécessairement aussi une mort au péché. Nous sommes quittes du péché, justifiés du péché, non pas seulement dans le sens que la condamnation nous est enlevée, comme l'apôtre l'a expliqué dans les chapitres précédents, mais carrément quitte du péché. C'est fini, c'est une existence antérieure qui est maintenant caduque. Jésus-Christ a pris sur lui tout ce que nous étions, notre représentant et notre substitut, il a pris sur lui toutes nos fautes, tout ce qui nous séparait de Dieu, tout notre vieux personnage, il est mort de telle sorte que cela est maintenant détruit. Et lorsque, par la foi en Jésus-Christ, nous nous unissons à lui, une reproduction de cette mort, la similitude de sa mort s'inscrit dans notre existence à nous. Notre vieux personnage, c'est fini. Notre vieux personnage, c'est fini. Et nous sommes libérés pour marcher en nouveauté de vie, dans une vie nouvelle. Et je vous fais remarquer que l'accent se porte particulièrement sur le corps ici, pour que le corps du péché soit détruit ou rendu inefficace, rendu inopérant, comme selon son étymologie, le terme de l'original l'implique. Notre corps, je crois que c'est ça le sens, notre corps, tant que nous étions sous la domination du péché, était en quelque sorte le corps du péché. Le péché nous maîtrisait et notre corps en était l'instrument. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort pour le péché, au péché, sa mort fait cesser ce rôle de notre corps. Et lorsque nous sommes unis à lui, le péché n'a plus à régner dans notre corps. Le corps, en tant que corps de péché, est rendu inopérant. Voilà ce que l'apôtre Paul, ici, a à cœur de souligner. Et au verset 11 et 14, alors, les exhortations s'en déduisent. Ces exhortations, je vais vous les faire remarquer très schématiquement pour ne pas trop dépasser mon temps. Tenez-vous, dit l'apôtre, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Considérez-vous, comptez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu à Jésus-Christ. Si vous avez bien compris ce que signifie votre foi, que vous pouvez visualiser dans votre baptême, puisqu'il a été expression de votre foi et qu'il a représenté l'enterrement de votre vieille existence, si vous avez bien compris ce qu'est votre foi, vous savez maintenant comment vous voir vous-même. Morts au péché, la vieille existence où vous faisiez ce qui vous plaisait et en fait c'était pas brillant, c'est fini. Alors il me semble intéressant que l'apôtre emploie cette expression au verset 11. Considérez-vous, comptez-vous comme morts au péché. Ça veut dire, me semble-t-il, qu'il n'y a pas d'automatisme. Pas d'automatisme, c'est pas du simple fait que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, que nous avons été unis à lui, que le péché ne va plus du tout alors mordre sur notre vie, qu'il sera purement et simplement éliminé. Non, non, il s'agit de se voir de cette façon et de se comporter donc de manière délibérée de cette façon. Il n'y a pas de truc qui élimine tout risque de chute. Ça, c'est un piège de la vie spirituelle dans lequel sont tombés certains chrétiens au fil des siècles. Pensez que, oui, il y a une deuxième expérience qui vous permet, après ça, plus de péché, plus de problèmes. L'apôtre Paul nous dit, il s'agit de se voir comme ça, de se considérer comme mort au péché et tirer les conséquences, mais c'est un impératif qui montre que la vie chrétienne continue d'être un combat. Aussi l'importance de l'auto-interprétation. Les psychologues, je crois, pourraient confirmer l'image qu'on se fait de soi a une efficacité considérable dans la manière dont on se comporte. Et je crois que c'est plus profond encore que la psychologie ici. Spirituellement, il est décisif que nous nous voyons comme Dieu nous voit, comme nous sommes dans la vérité de Dieu et de Jésus-Christ. Alors ce n'est pas du comme si, il ne s'agit pas de faire comme si nous étions morts, non, nous sommes morts par l'effet de cette union au Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'un idéal de morale. C'est une réalité de laquelle partir, mais c'est en Christ notre tête auquel nous tenons, mais il faut que ça passe de lui à nous, dans le commerce, j'allais dire, au sens ancien du mot, dans le commerce quotidien que nous avons avec lui. Cette mort au péché qui est réalité en lui, puisqu'il est notre chef, que nous sommes unis à lui, doit passer dans notre vie. Et nous sommes actifs en l'affaire. Nous avons à nous voir comme ça, et pas seulement à nous voir comme ça, mais à exercer notre volonté dans ce sens, ce que le verset suivant me semble bien montrer. Parce qu'il y a, le piège d'une façon très, très juste, sans doute, de nous voir et puis de rester inerte. Et le verset suivant nous commande, ne livrez pas. Non, plutôt le verset 12, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Ne livrez pas vos membres. Il faut, en plus de la vision saine, redressée, qui nous est ici proposée, que nous exercions notre volonté. Il y a une résolution ferme. Là, je prends quand même le temps de souligner ce point qui me paraît bibliquement important. Le Seigneur n'aime pas les carpettes. Vous trouvez dans certains passages d'étranges combats, spécialement le combat de Jacob avec l'ange. Rappelez-vous, Genèse 32, c'est bizarre. Pourquoi Dieu combat-il ainsi avec celui qu'il a choisi? C'est parce que Dieu veut susciter, fouetter en quelque sorte, toutes les énergies. Il veut des fils et des filles dignes dignes du nom de fils et filles de Dieu, qui ne se contentent pas de se laisser moutonnièrement conduire, même, je dirais, par le Saint-Esprit. Il veut que nous y entrions de tout notre engagement. Et parfois, il a presque l'air de se montrer notre adversaire pour nous pousser au-delà de ce que nous pensions être nos forces, pour que nous nous unifions intérieurement pour faire un pas de plus, pour lui montrer notre vraie résolution de le servir. L'impératif d'une action concrète après celui de l'auto-interprétation à laquelle nous sommes invités. Et je dirais, en gros et en détail, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel, car il reste mortel. Il n'est plus le corps de péché, le péché ne règne plus, il n'est plus le maître de notre corps, mais il reste mortel, avec des convoitises qu'il faut brider. Et alors, en gros et en détail, offrez vos membres, livrez vos membres comme instruments de Dieu. Et dans ce détail même, je vous fais remarquer qu'il y a association du négatif et du positif. Nous en avons bien besoin. Pas seulement ne livrez pas vos membres comme instrument ou arme, c'est un combat spirituel, on peut traduire arme, de l'injustice, mais offrez-les comme arme, instrument de la justice. Mais il y a les deux, positif et négatif. Nous en avons besoin, nous avons à nous garder des tentations et nous ne pouvons pas toujours nous imaginer qu'il suffira de considérer le positif. Il nous faut être avertis sur certains dangers qui nous guettent, être vigilants à cet égard. Mais pas non plus l'obsession du négatif seulement. Surmonte le mal par le bien. C'est un combat épuisant que de ne penser qu'aux choses qu'il ne faut pas faire. Il faut considérer la voie que le Seigneur nous ouvre, nos membres comme instruments et comme armes de la justice de Dieu. Je pense aussi là à un autre passage à propos d'un des membres de notre corps, celui dont Jacques dit que si nous sommes capables de le tenir en bride, alors c'est tout le corps qui suivra très bien. La langue, ce petit membre qui se vante de tant de choses. Jacques nous montre bien ce que signifie, d'une part, l'aspect négatif, ne pas, et d'autre part, l'aspect positif. User de ce membre pour la justice de Dieu, pour qu'il serve à la justice de Dieu. D'une part, se taire, d'une part, faire attention de ne pas s'en servir pour la médisance, pour les demi-vérités qui sont d'entiers mensonges, etc. Mais d'autre part aussi, pas seulement alors simplement se taire, mais bénir que de cette fontaine coule de l'eau douce, bienfaisante, que nos membres servent positivement à l'édification, à la construction de la communauté, au rapport que nous avons les uns avec les autres. Voilà l'attitude fondamentale et mise en œuvre avec ferme résolution qui nous est ici recommandée comme la voie de la liberté, liberté à l'égard du péché, parce que nous sommes morts au péché étant unis à Jésus-Christ par la foi. Le corps est encore mortel avec des désirs déréglés, c'est ça, les convoitises et les passions, mais le péché n'a plus à régner sur nous, parce que le Seigneur règne maintenant sur nous, Jésus-Christ qui est notre chef. Considérez-vous comme vous qui étiez mort, vivant maintenant, ayant été fait vivant par cette union à Jésus-Christ. Je dirais qu'après la nuit des morts vivants, qui était la vieille expérience, l'expérience du vieil homme, ce que nous annonce ce passage, c'est l'aube des morts qui revivent.